Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, il est 1h en temps universel, 4h à Kiev, le journal.
Pierre Boudias.
Et à la une, Washington met la pression sur le gouvernement sud-soudanais. Les États-Unis demandent une nouvelle fois la libération du vice-président Riek Machar et de plusieurs autres opposants. La Maison-Blanche ne cache plus sa frustration face au blocage de l'accord de paix de 2018. L'Ukraine arrime son avenir aux États-Unis. Kiev et Washington ont signé hier un accord sur les minerais rares ukrainiens. Un texte sans garantie de sécurité qui pourrait faire les affaires de Moscou, vous l'entendrez. La communauté druze syrienne accuse le gouvernement d'organiser une campagne génocidaire à son encontre. Réaction aux violences qui ont fait au moins 100 morts à proximité de Damas cette semaine. Le chef spirituel Hikmat Alijri appelle la communauté internationale à intervenir. Et puis la gauche française fête le 1er mai aux côtés des travailleurs. Une partie de ces figures était à Dunkerque hier. Ils venaient soutenir les salariés de la sidérurgie ArcelorMittal menacée de fermeture. Les États-Unis s'impatientent face à la crise politique au Soudan du Sud. L'ambassadeur américain Michael Adler a réitéré l'appel de Washington à ce que le vice-président Riek Machar ainsi que les autres figures d'opposition actuellement en détention soient libérées. Il s'exprimait mardi à la suite d'une rencontre dans le bureau de Kuol Manyangju, qui est haut conseiller du président Salva Kiir et qui préside aussi la commission chargée de la transition dans le pays. Les États-Unis, grand soutien du Soudan du Sud, notamment depuis son indépendance en 2011, ne cachent plus leur frustration face à l'échec des responsables sud-soudanais à mettre en œuvre l'accord de paix de 2018. Explication Florence Mietto.
L'ambassadeur américain Michael Adler, la soixantaine, a souligné qu'un sud-soudanais du même âge que lui a connu 4 guerres civiles au cours de sa vie. Inquiet de voir naître un nouveau conflit, il a exprimé son opposition à toute tentative d'évincer Riek Machar de l'accord de paix.
Nous soutenons fortement ceux qui pourraient mettre en œuvre les engagements de paix. Nous ne pouvons pas accepter que des engagements de paix soient mis en œuvre alors que l'un des signataires de l'accord de paix est en résidence surveillée. Nous appelons à la libération de ceux qui sont en détention. Nous appelons à une reprise du dialogue entre les dirigeants reconnus de toutes les parties du gouvernement de transition pour faire avancer la paix.
Michael Adler a également évoqué l'éventualité d'une fermeture de l'ambassade américaine au Soudan du Sud, éventualité mentionnée dans la presse américaine le mois dernier.
Il n'y a eu aucune décision de fermer quelque ambassade que ce soit, où que ce soit. L'ambassade américaine au Soudan du Sud reste fonctionnel, même si nous avons beaucoup réduit le nombre de nos employés américains du fait d'inquiétudes liées à la situation sécuritaire.
Des inquiétudes qui alimentent la frustration de Washington. L'administration Trump continue d'ailleurs de priver les Sud-Soudanais de séjour aux États-Unis, et ce malgré les efforts de coopération de Djouba en matière d'immigration. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Florence Mietto, un dossier dont ne s'occupera pas Mike Waltz, qui n'est plus le conseiller à la sécurité nationale américain. Cette figure de l'administration a été débarquée hier par Donald Trump, qui le nomme au poste d'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU. Il était dans la tourmente depuis plusieurs semaines et l'affaire dite du signal Gelt, lors de laquelle il avait révélé par erreur des informations classifiées à un journaliste américain. C'est le secrétaire d'État Marco Rubio qui assura l'intérim à son poste. L'ex-sénateur de Floride qui suivra sans doute avec attention les suite du deal signé hier entre Ukraine et États-Unis, un accord sur l'exploitation des ressources minières et la reconstruction du pays qualifié de véritablement équitable par Volodymyr Zelensky ce jeudi. Le texte prévoit la création d'un fonds d'investissement en Ukraine. Il sera abondé à 50-50 par Washington et Kiev. Il ne prévoit pas de comptabiliser comme dette de l'Ukraine l'aide militaire apportée jusque-là par les États-Unis, a précisé hier le président ukrainien. Et alors que la Russie a poursuivi ses bombardements sur l'Ukraine, faisant 2 morts à Odessa la nuit dernière, l'accord ne prévoit pas non plus de garantie de sécurité particulière ni de livraison d'armes à Kiev. Résultat, côté russe, on ne devrait pas trop s'en inquiéter. Selon Ulrich Buna, il est analyste géopolitique sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, chercheur associé à Eurocréative. Il répond aux questions de Muriel Paradon.
En surface, les Russes sont probablement pas satisfaits. Tout ce qui n'éloigne pas et tout ce qui rapproche Washington de Kiev, c'est pas une bonne nouvelle vu de Moscou. Néanmoins, je pense pas que ce soit véritablement quelque chose de considéré comme extrêmement grave par les Russes pour deux raisons. Le premier, c'est justement l'absence de toute garantie de sécurité et d'engagement, on va dire, stratégique et militaire de la part des Américains. Et deuxième point, d'un point de vue économique, oui, donc certes, ça fait sans doute pas plaisir à Moscou, mais Moscou, de son côté, est en train justement d'essayer d'attirer Washington à investir un petit peu de la même façon d'ailleurs en Russie, que ce soit sur le pétrole en Arctique, que ce soit sur le rétablissement des relations commerciales pleines et entières avec des investissements américains en Russie, même sur les minerais. Et donc finalement, je pense que d'un point de vue économique, les Russes se disent qu'ils sont capables sans doute de proposer beaucoup plus aux États-Unis. Donc effectivement, ils pourraient sortir eux-mêmes vainqueurs si jamais ils signaient un accord, le même type d'accord avec Washington.
Et sachez que dans ce contexte, le chef de la diplomatie française a estimé que Vladimir Poutine est le seul obstacle à la paix en Europe de l'Est. Jean-Noël Barrot confirme que les Européens préparent un 17e paquet de sanctions contre Moscou. Les États-Unis ont envoyé une proposition de négociation à la Chine concernant la guerre des droits de douane. Une demande que Pékin affirme ce matin évaluée alors que ses produits sont toujours taxés à 145% par Washington. Les États-Unis doivent cependant auparavant corriger leurs mauvaises pratiques, selon les mots du communiqué des autorités chinoises. RFI, il est presque 4h06 à Damas, la Syrie, où les États-Unis condamnent les violences contre la minorité druze. Déclaration du porte-parole du département d'État dans un communiqué. Tammy Bruce enjoint les autorités intérimaires à faire cesser les affrontements communautaires qui ont fait 100 morts depuis le début de la semaine. Si les forces de sécurité syriennes ont tenté de s'imposer comme elles l'ont pu entre milices islamistes radicales et membres de la communauté ismaélite, le gouvernement est également pointé du doigt par les chefs druzes, les précisions d'Alice Roussard.
Les mots du cheikh Hikmat Al-Hijri sont forts. Pour le chef spirituel de la minorité druze de Syrie, il s'agit, je cite, d'une campagne génocidaire contre sa communauté, visant des civils à leur domicile. « Nous ne faisons plus confiance à une entité qui prétend être un gouvernement », martèle-t-il, car un gouvernement doit protéger son peuple. Il faut dire que cette dernière vague de violence, qui a commencé lundi soir en banlieue de Damas, a surtout réveillé le spectre d'un déchirement de la Syrie selon des lignes communautaires et montre que le chemin sera encore long avant d'unifier le pays. D'un côté, il y a donc les druzes organisés pour défendre leur quartier, rejoints par d'autres miliciens druzes venus leur prêter main forte. En face, des combattants sunnites, anciennement membres de Hayat Tahrir al-Sham, le mouvement islamiste d'Ahmed al-Shara. Mais sont-ils des membres des nouvelles forces de sécurité syriennes? Appartiennent-ils à des groupes radicaux qui évoluent en marge des structures officielles? Ou bien sont-ils rattachés au pouvoir de Damas en échappant à son contrôle? Rien n'est clair pour le moment et ces questionnements sont les mêmes qu'après les tueries de début mars contre les Alaouites, la minorité dont est issu Bachar al-Assad, qui en quelques jours avait fait 1700 morts.
Alice Foussard et Israël a menacé hier d'une réponse ferme si aucune mesure n'était prise pour protéger la communauté druze. L'armée israélienne qui poursuit dans le même temps son pilonnage de la bande de Gaza. Au moins 26 personnes ont perdu la vie hier dans l'enclave palestinienne, selon la défense civile qui évoque des bombardements sur Ran Younes et Gazaville. Alors qu'Israël bloque toujours l'entrée d'aide humanitaire, l'Organisation mondiale de la santé décrit la situation sur place comme une abomination. Son directeur adjoint Mike Ryan évoque plus de 1000 enfants qui n'ont plus de membres et des milliers d'autres avec des lésions à la moelle épinière. RFI, il est 3h08 à Paris, la France, où ils étaient des dizaines de milliers à défiler comme partout dans le monde hier. 1er mai et fête du travail oblige et l'un des cortèges bien fournis après Paris se trouvait à Dunkerque dans le nord du pays. Un millier de personnes réunies, syndicats, responsables politiques de gauche et simples citoyens pour défendre les salariés de la sidérurgie ArcelorMittal. 600 emplois sont menacés, Victorien Villaume.
Les drapeaux des syndicats éclairés par un grand soleil et cette banderole industrielle en danger, Dunkerque résiste. Philippe Lux, délégué CGT chez Arcelor, a l'impression de revoir toujours le même mauvais film sur l'industrie française.
Mon grand-père était mineur, on a travaillé dans la sidérurgie toute notre vie, on a connu le déclin de la sidérurgie en Lorraine, et c'est ce qui va arriver par ici.
On a un savoir-faire et on veut que ça continue, s'inquiète de son côté Jean-Baptiste François, 15 ans d'ancienneté en tant que leader logistique.
Il y a une semaine, on était à 170 emplois supprimés, aujourd'hui on est à 300, comment on sera demain, on ne sait pas. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment qu'on soit défendu avec beaucoup plus d'activité au niveau national et surtout au niveau de l'Europe.
Nationalisation ! Pour soutenir ArcelorMittal et demander la nationalisation, de nombreux élus de gauche ont fait le déplacement, des écologistes aux insoumis en passant par les socialistes. Olivier Faure, premier secrétaire du PS.
Notre volonté, c'est effectivement de venir soutenir celles et ceux qui se battent aujourd'hui pour leur emploi face à un employeur qui a reçu beaucoup d'aide publique et qui, dans le même temps, licencie.
Deux annonces concrètes de la part de la gauche. La direction d'ArcelorMittal va être convoquée en audience par la Commission des affaires économiques et une proposition de loi va être déposée pour que l'État mette sous tutelle l'usine de Dunkerque.
Victorien Villot. Mais à noter que le ministre de l'Industrie français a estimé hier que la nationalisation d'ArcelorMittal n'était pas une bonne réponse face au risque de fermeture. Marc Ferracci milite, lui, pour un retour des investissements sur le site, notamment dans la décarbonation. Presque 1h10 en temps universel. Bonne suite des programmes à l'écoute de RFI.